Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Élie Baranet, docteur en sciences politiques et chercheur à l'IRSEM, autour de son livre « Comment perdre une guerre, une théorie du contournement démocratique » qui est paru l'an dernier aux éditions du CNRS. Et à travers cet ouvrage, pour aborder plus généralement le problème complexe de la rencontre entre un régime démocratique et la conduite de la guerre, et en fait les conditions sous lesquelles une démocratie réussit ou ne réussit pas à mener une guerre. Alors bonjour, et dans un premier temps, pour vraiment cerner l'angle et l'originalité de l'ouvrage, je pense qu'il faut commencer par dresser le tableau intellectuel de ce problème, et de la manière dont il a été posé même avant vous et votre travail, c'est-à-dire vraiment le socle sur lequel vous vous inscrivez. Et la première étape pour ça, c'est presque une idée reçue qui remonte à la guerre antique et qu'on a tous un peu inconsciemment, qui est celle de dire que la démocratie, un régime démocratique serait gênant pour faire la guerre, ou au moins que ce serait, disons, encombrant quand il s'agit de faire la guerre.
Absolument. Alors pendant des années, des siècles et même finalement des millénaires, on a considéré que la démocratie était un handicap pour faire la guerre, dans le sens où les impératifs stratégiques étaient en contradiction avec la réalité de la pratique de la vie politique en démocratie. Le devoir d'agir vite, d'agir de manière secrète et d'avoir un peuple uni derrière la cause nationale contre l'ennemi sont autant de choses que la démocratie, en tout cas telle que c'est considéré par ses critiques, que la démocratie contredit. Parce que la démocratie implique une prise de décision collégiale, de la délibération qui prend du temps, et aussi une publicité qui rend les intentions du régime visibles, et notamment visibles par l'ennemi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est presque intuitif comme idée. C'est-à-dire c'est l'idée que quand on fait la guerre, c'est une question de vie ou de mort, et que, du coup, on n'a pas forcément le temps ou l'énergie à consacrer à ce qui fait la nature d'un régime démocratique, c'est-à-dire le vote, la délibération, le débat, tout ce qui, en fait, fait la vie démocratique au quotidien, quoi.
Notamment, c'est pas le seul argument. La question du temps, évidemment, est cruciale ici. Il faut agir vite alors que la démocratie implique du temps, mais il faut aussi agir donc de manière secrète, et puis il faut agir de manière unie. Voilà. Je pense que c'est les trois arguments principaux, et la démocratie implique des débats et un public qui peut être fragmenté. En tout cas, c'est la vision qu'on en a eue pendant longtemps.
Oui, c'est ça. Ça repose aussi sur tout un tas de dispositifs institutionnels qui ont vraiment existé. C'est-à-dire c'est la dictature dans la Rome antique, par exemple, où c'est l'idée de pouvoir d'urgence, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on suspend un moment ce qui fait la démocratie pour traiter le problème urgent, et il n'y a pas de problème plus urgent a priori qu'une guerre. Quoi.
Oui, bien entendu, dans le sens où on a considéré que ces mesures-là étaient des correctifs aux problèmes qu'on vient de citer. Alors certains auteurs considèrent que la démocratie tout entière doit reculer, d'autres considèrent qu'on peut plus ou moins amender les dispositions en place. En tout cas, ça a été c'est ce qu'on a considéré pendant, on va dire, très très longtemps, jusqu'à presque la fin de la guerre froide. Et là où on s'est rendu compte que finalement, les démocraties, même en restant démocratiques, potentiellement, s'en sortaient peut-être pas si mal.
Ouais, on va revenir dessus dans une seconde, mais ce qu'il y a d'étonnant pour finir là-dessus, c'est que les auteurs qui pensent ça, c'est pas non plus des autocrates acharnés, des partisans de la tyrannie. C'est-à-dire, vous citez des auteurs qu'on associe plutôt à la tradition libérale, c'est-à-dire plutôt défenseur des libertés publiques, d'un régime démocratique. Il y a Kant, vous citez Kant, mais vous citez aussi et surtout Alexis de Tocqueville, qui est beaucoup associé à cette idée-là, alors même que c'est un des pères intellectuels du libéralisme.
Absolument, il y a beaucoup d'auteurs libéraux qui se sont attachés à montrer que, pour ce qui est des questions de politique étrangère, on ne pouvait pas avoir recours aux mêmes procédures normales qui se prennent du temps et qui sont publiques. Il y a John Locke, le père du libéralisme lui-même, parlait du pouvoir fédératif qui devait être aux mains du pouvoir exécutif. Donc c'est absolument pas une conception exclusive des réalistes, on va dire, qui ont tendance à considérer que le régime politique n'a pas de pertinence, ou en tout cas que la démocratie recule. Même pour les auteurs qui ont mis les affaires internes et la légitimité des gouvernants vis-à-vis de leur public, et notamment la démocratie au centre de leur perception, lorsqu'il est question de politique étrangère, ils trouvent que c'est tout à fait naturel que le public recule et que la démocratie avec elle soit, sinon mis entre parenthèses, au moins... paralysé dans certaines de ses attributions qui pourraient handicaper la marche des affaires militaires.
Ouais. Alors là-dessus, vous y faisiez référence il y a une seconde, vient se greffer en quelque sorte un deuxième stade qui prend le contre-pied exact, qui est ce qu'on appelle globalement la théorie de la victoire démocratique. C'est-à-dire, vraiment, si je résume à très très gros traits, c'est l'idée que les démocraties ont en fait, contrairement à ce qu'on pense, tendance à gagner leur guerre quand elles en font.
Absolument. C'est une théorie qui a commencé à être initiée et puis popularisée, enfin popularisée dans le champ des relations internationales, bien sûr, à la fin de la guerre froide. L'idée est de dire que lorsqu'on regarde le bilan empirique des démocraties en guerre, il n'est pas si mauvais que ça. Alors évidemment, ça dépend de comment on défend démocratie, guerre et surtout victoire, ce qui est
pas
évident. À peu près, tout le monde s'accorde sur le fait que les démocraties gagnent au moins la moitié des guerres.
Oui, c'est des chiffres qui sont étonnants. Vous les reprenez d'autres auteurs, enfin des principaux auteurs de la victoire démocratique. Mais alors, donc vous le disiez, ça dépend comment on compte. Mais l'idée, ce serait que les démocraties auraient gagné 75% des guerres qu'elles ont menées depuis 1815, selon une manière, ou 86% des victoires entre 1816 et 1988 dans des affrontements démocratie-non-démocratie. Bref, peu importe comment on compte, dans tous les cas, il semble le constat assez solide que les démocraties ont plutôt tendance à gagner quand elles font la guerre.
Voilà, c'est ce que la majorité des auteurs pensent. Les plus sceptiques considèrent que ça se vaut, voilà, avec leur propre méthodologie pour distinguer victoire-défaite. Mais dans tous les cas, elles n'ont pas tendance à perdre. Et en tout cas, ça tranche avec l'image qu'on s'en était fait depuis Thucydide, et depuis donc le 5e siècle avant Jésus-Christ. Se pose ensuite la question, est-ce que c'est dû à la démocratie ? Ou est-ce que c'est une coïncidence ? Ou est-ce que ce sont d'autres facteurs qui sont à l'œuvre et on l'attribue à la démocratie pour des raisons peut-être d'erreur scientifique ou peut-être idéologique ?
Oui, parce que on l'a présenté à gros traits comme une théorie unifiée, mais c'est pas ce qu'on voit très bien dans votre livre, c'est que non seulement c'est pas une théorie unifiée, mais tous les auteurs qui la défendent sont à peu près jamais d'accord les uns avec les autres. Et il y a vraiment plusieurs écoles de pensée, alors que vous pouvez peut-être nous résumer rapidement sur les principaux leviers qui feraient que la démocratie gagne.
Oui, vous avez absolument raison, c'est-à-dire que tous les auteurs qui sont d'accord pour dire que les démocraties sont avantagées ne sont pas d'accord entre eux sur les raisons pour lesquelles elles sont avantagées. Donc vous avez par exemple David Lake qui a initié ce débat, qui considère que si les démocraties sont avantagées, c'est notamment pour des raisons économiques. Les démocraties sont les régimes les mieux dotés pour produire de la richesse et pour extraire ces richesses qui sont utiles en temps de guerre. C'est aussi les régimes qui sont les moins agressifs, donc ils suscitent moins d'appréhension de la part des autres États, qui vont moins s'allier contre eux que lorsqu'ils vont s'allier contre des régimes non démocratiques. Vous avez à partir de là des critiques qui vont être émises contre David Lake et contre ceux qui sont d'accord avec lui, par exemple par Reiter et Stamm, et qui vont dire que c'est vrai que les démocraties sont avantagées, mais c'est pas du tout pour ces raisons-là. Donc ils vont essayer de montrer que ces deux raisons-là sont fallacieuses. Les raisons pour lesquelles elles sont avantagées, la raison principale, et c'est le mécanisme, c'est le mécanisme central autour duquel Reiter et Stamm vont développer leur œuvre. Reiter et Stamm, qui sont les deux auteurs principaux de cette proposition théorique, c'est l'effet de sélection. En gros, les démocraties si elle gagne...
Alors c'est Dan Reiter et Alan Stamm dans un ouvrage de 2002, je crois.
C'est ça. Donc l'ouvrage de 2002 réunit certaines de leurs publications précédentes et ajoute une nouvelle perspective. Donc Reiter et Stamm considèrent que le mécanisme central, c'est ce qu'on appelle l'effet de sélection. Les démocraties choisissent des guerres plus facilement gagnables parce que leurs leaders ont peur, en perdant une guerre, de perdre le pouvoir parce qu'ils sont plus responsables de leurs actions devant le public que ne le sont des autocrates. D'autres arguments connexes viennent s'ajouter, par exemple le fait que les démocraties soient plus efficaces sur le champ de bataille, parce qu'on a des meilleurs soldats, parce que les soldats qui font la guerre sont aussi des individus dans nos sociétés libérales, qui sont des sociétés plus ouvertes et auxquelles on laisse plus d'initiative. Or, l'initiative est cruciale sur le champ de bataille, puisqu'on fait des bons choix. Vous savez qu'aucun plan de guerre ne résiste au premier coup de fusil, donc au premier coup de canon, pardon. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Certains soulignent aussi...
C'est intéressant, parce qu'on voit... Alors, on va entrer dans le détail, parce que justement, ce qui fait votre originalité par rapport à ces auteurs-là, c'est que vous étudiez des cas précis. Là, pour l'instant, c'est très désincarné, ce qu'on raconte, mais parce qu'ils travaillent sur beaucoup de guerres et beaucoup d'événements différents. Mais on va entrer dans le détail. Mais oui, excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, c'est bien, j'étais d'accord avec vous.
Donc on a ce champ avec, disons, une idée reçue, intuitive, et au contraire toute une théorie qui se développe pour en montrer la fausseté, disons la fausseté tendancielle. Et c'est là-dessus, donc sur cette idée que les démocraties gagneraient leur guerre. D'ailleurs, j'y pense, est-ce qu'on peut dire que c'est une idée qui est dans une certaine mesure datée, disons des années 90, et disons d'une optique... peut-être de fin de l'histoire, c'est-à-dire dans la perspective de Francis Fukuyama, c'est-à-dire l'idée qu'on va irrémédiablement vers des démocraties libérales et que, enfin, disons ça, ce serait le pendant militaire et guerrier de ces théories ?
On peut dire que ça y ressemble. La coïncidence, on va dire, chronologique est frappante. D'un point de vue scientifique, vous aviez eu juste avant le débat sur la paix démocratique, pourquoi est-ce que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles, qui avait eu beaucoup de succès. Que par la suite, il y a un autre débat sur la guerre et la démocratie, n'est pas si surprenant que ça. Qu'il arrive au moment où c'est la fin de la guerre froide, on peut penser que ça a pu avoir une influence. C'est dur de savoir si vraiment ça a été le cas, je ne peux pas le savoir, à moins de lire dans les pensées des auteurs qui ont initié ce débat. En tout cas, bon, c'est une piste, j'ai envie de dire, à suivre. Je sais pas si elle est testable, cette hypothèse. Mais en tout cas, ça coïncide. Chronologiquement, ça coïncide, en effet.
Ouais. Bon, et donc, c'est là-dessus que vous vous insérez en cherchant à montrer et à analyser, disons, des contre-exemples à ce phénomène général à partir de deux cas de figure que vous étudiez de près, que sont donc les États-Unis et Israël, d'abord dans la guerre du Vietnam et ensuite dans la guerre du Liban de 1982, qui sont donc deux échecs relatifs, guerriers de démocratie, et vous essayez de replacer et de, disons, de fournir un schéma explicatif de pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Mais juste avant de passer là-dessus, faut peut-être faire une pause, puisqu'on tourne un peu autour depuis tout à l'heure, et préciser ce que vous entendez exactement par démocratie. Puisque bon, c'est ça quand même qui est au centre de la chose, puisque vous en avez une définition assez forte, vous cherchez, disons, à nomenclaturer précisément la chose. Alors qu'est-ce que vous appelez une démocratie ? Qu'est-ce que ça identifie pour vous ?
Alors la démocratie a au moins deux définitions, ou plutôt c'est le même terme pour deux objets. Soit on considère que la démocratie, c'est un régime politique, donc il y a des démocraties, auquel cas j'ai une définition qui est tout à fait, on va dire, consensuelle et qui rejoint celle qui est consacrée en relations internationales et même de manière plus générale en sciences politiques. C'est-à-dire que, et démocratique, un régime politique qui repose sur des droits politiques et des libertés civiles qui sont très, très étendues, qui tournent autour de l'élection, qui sont libres, qui sont ouvertes, qui sont équitables, qui ont lieu de manière régulière. Et en même temps, le régime politique doit satisfaire à la sauvegarde des libertés civiles telles que la liberté de parole, la liberté de culte, la liberté d'association et le respect fondamental des droits humains élémentaires. Donc ça, si vous voulez, c'est la distinction entre un régime démocratique et un régime politique qui ne le sera pas. Et c'est les mêmes critères qu'on va retrouver un petit peu de partout.
Oui, mais alors, du coup, alors justement, parce que ça va nous faire évoluer vers votre deuxième définition, c'est, du coup, ces pays-là, en fait, il y a une sorte de consensus sur qui sont les démocraties, c'est-à-dire France, Angleterre, États-Unis, etc., et qui ne sont pas les démocraties, Russie et Chine, enfin, Arabie Saoudite, tout ce que vous voulez. Quoi.
Absolument, c'est-à-dire que vous avez la manière d'utiliser le mot démocratique ou démocratie en politique internationale, donc par les acteurs politiques eux-mêmes, et comme vous le savez, la démocratie, c'est quelque chose qui est légitime, donc chacun a envie de s'appeler démocratie et d'appeler son ennemi une non-démocratie. Nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on n'est pas engagés par ce que les acteurs disent. Donc c'est très important pour nous de se dire que lorsque le régime nord-coréen dit qu'il est une démocratie, c'est pas pourtant qu'il l'est. Donc nous, on le regarde avec des critères extérieurs. Et il se trouve qu'en effet, il y a un consensus sur ce qu'est une démocratie, sur les critères qui sont retenus, et il y a un consensus qui est relativement large sur les pays qui satisfont à ces critères. Et en l'occurrence, les pays qui sont les plus guerriers et qu'on considère comme des démocraties, il n'y a pas vraiment de débat.
Alors, oui, mais il y a un léger truc légèrement polémique. Enfin, pour les États-Unis, ça pose pas de problème. Pour Israël, vous voyez, on pourrait opposer un contre-argument aussi, qui est souvent opposé, qui est pas forcément sur la nature du régime, mais plus sur, disons, l'étendue des territoires qu'ils contrôlent et sur le fait qu'il y a des gens dans des territoires contrôlés par Israël qui ne votent pas pour, disons, la détermination de leur destin. Mais là, enfin... En même temps, de fait, l'utilisation que vous en faites, et que vous en faites de manière opérante dans le livre, c'est surtout dans le processus démocratique. Et là, de fait, Israël fonctionne comme une démocratie parlementaire normale, quoi.
Si on n'en est pas convaincu en amont, je pense qu'en lisant au moins le cas d'étude, on se rend compte qu'il y a vraiment des processus démocratiques qui sont intenses. Et de par ailleurs, cet argument-là pour dire qu'Israël n'est pas une démocratie, comme d'autres, hein, le fait qu'il y ait une politique étrangère agressive, ce sont des arguments qui sont mobilisables dans une critique de la politique étrangère d'Israël ou du comportement d'Israël, mais qui... du fait de ma définition de la démocratie, je pense, ne permettent pas de dire que le pays n'est pas démocratique. Et cela dit, Israël n'est pas évidemment la démocratie parfaite, et la démocratie, comme toute chose, étant une question de degré plutôt qu'une question de nature. Donc, si vous regardez les bases de données, Israël est toujours considéré comme une démocratie, au maximum, ou presque, ou quasiment au maximum. Si on faisait d'Israël un pays non démocratique, ça voudrait dire qu'il n'y aurait qu'une poignée de démocratie qui resterait peut-être dans le monde. C'est pas ça l'objet, d'autant que ma catégorie de démocratie a moins pour but de donner des bons et des mauvais points. C'est une classification qui n'est pas un jugement de valeur.
Oui, de fait, vous avez raison, quand on lit le livre, et surtout pour l'utilisation que vous en faites, on se rend compte que c'est tout à fait opérant, notamment parce que, on va le voir, on va revenir dessus, mais de fait, et certainement en 1982, Israël fonctionne comme une démocratie parlementaire, avec un gouvernement qui doit vraiment se soucier de l'opinion publique, et c'est ça qui va, dans une large mesure, déterminer l'issue des opérations, comme on va le voir. Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam. Alors, maintenant, il s'agit donc d'entrer dans le concret, et vraiment dans ces deux cas de figure, et... Je vous demandais de m'expliquer en quoi on a ce que vous appelez un contournement démocratique dans ces deux cas, en commençant peut-être d'abord chronologiquement par la guerre du Vietnam. Alors je ne vais pas vous demander de m'expliquer la guerre du Vietnam en 5 minutes, même si vous le faites très bien dans le livre, puisqu'on peut supposer que les auditeurs ont au moins une connaissance minimale du déroulé des opérations. Mais peut-être que vous pouvez essayer de montrer en quoi et pourquoi on assiste à un de ces cas de détournement vraiment démocratique dans le cas de la... Ils ont dû dérouler des événements, disons, dans les années 1960 et 1970.
Alors, il y a un contournement de la démocratie, que j'ai défini comme le fait d'avoir des objectifs de guerre réels qui sont plus ambitieux que les objectifs de guerre publics, dans le cas du Vietnam, dans le sens où la guerre qui est menée sur le terrain ne correspond absolument pas à la guerre qui est vendue au public. Dans les premiers mois même, il n'y a pas du tout de guerre qui est vendue au public. C'est-à-dire que la guerre du Vietnam est une guerre secrète. Le président Johnson ne dit pas que les États-Unis sont en guerre. Il c'est simplement une continuation de la politique étrangère dans la région qui a été initiée par ses prédécesseurs. Et il va essayer de cacher le plus longtemps possible qu'il y ait eu un changement qualitatif de la mission des États-Unis en Indochine.
Parce qu'il faut peut-être rappeler que Lyndon Johnson arrive au pouvoir après l'assassinat de Kennedy. Alors d'abord, son souci, c'est de se faire élire. Puis ensuite... on s'en souvient pas forcément, mais Lyndon Johnson a un très grand projet social qu'il appelle la Grande Société, la Great Society, et donc il cherche à faire passer un agenda social et donc à faire le moins de vagues possible en termes de politique étrangère.
Absolument, ça c'est les raisons pour lesquelles il a décidé de contourner la démocratie. Alors que lui, il est intéressé par la politique intérieure et notamment son grand agenda de réforme sociale et économique qui est la Grande Société. Or, il a tout à fait confiance, que si il perd le Vietnam. Si le Sud-Vietnam se fait absorber par le Nord-Vietnam, il sera trop critiqué et n'aura pas assez de capital pour pouvoir mener à terme son projet de grande société. Et en même temps, il ne peut pas se permettre de faire une guerre ouverte, dans le sens où s'il va en guerre, le Congrès sera occupé à la guerre du Vietnam, plutôt que d'être occupé à faire passer ces lois de grande société que Johnson veut faire voter rapidement parce qu'il veut bénéficier de ce qu'on appelle la lune de miel juste après l'élection ou l'intronisation du chef de l'État. Donc il se doit de faire la guerre, mais il ne peut pas en parler. Donc il se dit, mon meilleur moyen, mon moyen le moins mauvais, c'est de faire la guerre sans le dire. Je ne sais pas si j'arriverai à la gagner, mais en tout cas, ça me permettra d'avoir les mains libres pour la Great Society, qui clairement prime dans le classement des priorités de Johnson.
Alors comment il va faire pour faire la guerre sans la faire et sans le dire concrètement ?
Concrètement, il va la faire de manière, on va dire, irrationnelle d'un point de vue stratégique. Ça va consister à n'octroyer aux militaires sur le terrain que des moyens lorsqu'il est certain ou lorsqu'il pense de manière assez confiante qu'il va pouvoir dissimuler le changement de mission des États-Unis sur le terrain.
Oui, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le contournement, c'est donc une différence entre les objectifs affichés et les objectifs réels. Dans ce cas-là, les objectifs réels, c'est d'arrêter la progression communiste, c'est ça ?
Oui, c'est de faire en sorte que le Nord-Vietnam et les insurgés au sud, le Viet Cong, ne soient pas suffisamment puissants pour empêcher la pérennisation du Sud-Vietnam comme entité politique indépendante.
D'accord. Et du coup, les objectifs affichés, donc qui sont inférieurs à ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il affiche ?
Aucun. La guerre, il n'y a pas de guerre. En gros, c'est un soutien indirect de conseillers et d'alliés, conformément à ce qu'a fait Eisenhower et Kennedy avant eux. Donc on est là dans une situation de contournement qui est encore plus vaste que pour le deuxième cas d'étude. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas où on dit qu'on fait une petite guerre alors qu'en fait on fait une grosse guerre. Là, on fait une guerre alors qu'on dit que la guerre n'existe pas.
Oui, mais alors pourtant, aux États-Unis, il y a quand même des processus démocratiques. Il faut un certain accord du Congrès pour pouvoir envoyer des troupes. Donc comment est-ce que Johnson va faire pour faire voter, disons, quoi que ce soit, puisqu'il a besoin quand même d'un aval du Congrès.
Il a besoin, c'est toujours un atout. C'était avant le vote des War Powers Act, qui nécessite que le président revienne dans les 60 jours pour avoir l'aval du Congrès pour que les troupes restent engagées. Néanmoins, c'était quand même important d'avoir le Congrès qui était derrière soi. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va profiter d'un incident qui va se passer en 1964 dans les eaux du golfe du Tonkin. Les Américains se croient attaqués alors qu'en fait ils ne l'ont pas été.
On va pas revenir dessus, mais c'est une sombre histoire de radar,
de torpilles
et de torpilles.
Johnson se saisit de cette opportunité pour faire voter au Congrès sur des bases qui sont complètement fallacieuses, le fait que les États-Unis ont été attaqués et qu'il faut qu'il ait les mains libres pour pouvoir répondre au cas où les États-Unis se feraient encore attaquer.
Mais c'est ça, donc, c'est frappant parce que tout le long, c'est ce qu'on... Enfin, j'avais complètement oublié ça, mais en vous lisant, on le voit très bien. En permanence, alors même qu'ils sont au Vietnam, que c'est des troupes au Vietnam, en permanence, les États-Unis maintiennent la fiction qu'ils sont attaqués et qu'ils doivent se défendre.
Oui, alors là, c'était déjà en amont, puisque c'était avant la guerre, mais ça va être oui, une manière de dire par la suite, laissez-nous faire le travail, puisqu'évidemment, la réalité de la guerre ne peut pas être dissimulée pendant très très longtemps, et Johnson le savait, et une fois qu'on se rend compte publiquement que les États-Unis sont en guerre, l'argument va être laissez-nous au moins finir, ne laissez pas les boys sur le terrain en difficulté, et puis finalement c'est un conflit qui va énormément traîner avec les conséquences qu'on connaît.
Bah justement, détaillons-les, c'est-à-dire c'est l'idée que puisqu'il ne peut pas le dire qui fait la guerre, Johnson, on a du coup une sorte de malaise permanent sur les moyens et sur l'investissement public qui peut se permettre, que les États-Unis peuvent lancer. Vous résumez par une expression de Johnson, c'est-à-dire il faut mettre les moyens, il faut les mettre assez, mais pas trop.
Voilà, c'est ça. En fait, il va avoir recours déjà à des bombardements, mais des bombardements bien trop tard par rapport à ce que les chefs d'état-major réclament, des bombardements qui ne sont pas aux endroits que les chefs d'état-major ou que les militaires demandent parce que ce serait trop visible, et des bombardements qui ne sont pas aussi intensifs que ceux qui sont demandés pour les mêmes raisons, et aussi par rapport aux puissances soviétiques et surtout chinoises. Donc c'est pas l'unique argument, la politique interne, mais c'est l'argument principal. Et surtout, moi je pense que c'est l'argument le plus important, c'est qu'il va se focaliser sur l'usage de la puissance de feu, parce que ça implique une moindre mobilisation de la société qu'un effort de contre-insurrection. Or, l'effort de contre-insurrection est celui qui profiterait le plus aux États-Unis, compte tenu de la nature de la guerre qu'ils sont en train de combattre. Et justement, les États-Unis se refusent à ça pour que Johnson maintienne cet impératif de discrétion vis-à-vis de sa propre, de son propre agenda en interne. En gros, il a trompé le public sur la vraie nature de la guerre, et il doit être extrêmement discret pour ne pas que tout le monde se rende compte de l'étendue de sa tromperie.
C'est intéressant parce que c'est amusant. Ça fait quasiment suite à quelque chose dont on parlait avec Elie Tenenbaum autour de son livre sur la contre-insurrection, qui est le fait qu'au Vietnam, c'est bizarre parce que on arrive à la fin de deux décennies globalement, où il y a tout un tas de savoirs contre-insurrectionnels qui ont été établis, notamment en Asie, et que quand ils arrivent au Vietnam, les Américains les jettent par la fenêtre et les utilisent absolument pas. Et donc, en quelque sorte, vous fournissez une explication de pourquoi ils les utilisent pas. C'est parce que ça ferait prendre trop de risques aux boys, quoi.
C'est vrai qu'il y a cet argument-là, ça leur ferait prendre trop de risques. Je pense que c'est pas l'argument principal, dans le sens où le fait de ne pas avoir recours à cette méthode-là fait que par d'autres moyens, on expose les boys également. Donc il y a l'impératif de prudence que vous mentionnez ici, qui est important, vous avez tout à fait raison, mais l'impératif de discrétion est, je pense, également important. Et surtout, Johnson voulait avoir, une fois que tout le monde savait qu'il était en guerre, il voulait avoir des résultats tangibles. Or, la contre-insurrection, ça prend du temps, comme vous le savez, par définition. Les résultats tangibles, ben, on reviendra. Hein, le résultat tangible, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, si on peut bombarder et donner un nombre d'ennemis qui sont morts, ou d'ennemis ou ceux qu'on comptabilise comme les ennemis, avec la pratique du body count, finalement, ça marche plus pour des raisons de politique interne. Ça marche beaucoup moins bien sur le terrain, évidemment.
Oui, et du coup, tout ça infuse sur tous les contours, quoi. Donc, on bombarde de haut pour pouvoir ensuite compter largement. Vous faites mention aussi de quelque chose que j'avais jamais lu, mais qui est très intéressant, qui est le fait qu'on a un taux de rotation des soldats qui est très élevé, parce qu'on a peur que si les soldats restent trop longtemps au front, les familles se plaignent et ça fomente une sorte de mécontentement en métropole, quoi. Et du coup, ben, ça fait qu'on a tendance à changer souvent les soldats et que du coup, ils sont moins efficaces, quoi.
C'est ça. Les États-Unis n'ont pas été en guerre 9 ans, ils ont été en guerre 9 fois 1 an. C'est cette formule-là. Ce qui est d'autant plus dommageable dans un conflit irrégulier où il y a deux éléments qui jouent en la défaveur de cette mesure. Le premier, c'est que vous risquez plus d'être tué dans les 6 premiers mois que dans les 6 suivants. Donc autant rester plus longtemps parce que on va dire que la mise en jambe vous met un petit peu en danger. Donc pour montrer que la discrétion est aussi plus importante que la prudence. Et le deuxième élément, c'est que la nature même du combat fait que avec un combattant irrégulier, c'est qu'on est beaucoup plus efficace si on connaît bien le terrain. Or, si on doit le quitter au bout de 12 mois, c'est au moment où on commence vraiment à avoir pris ses marques et qu'on est extrêmement rentable, entre guillemets, qu'on se retire.
Ouais, et du coup, à terme, on arrive sur un réel problème d'incompréhension, puisque Johnson dit pas ou dit peu qui fait une guerre. Et du coup, ben, en fait, on voit quand même les soldats qui partent toujours plus. Et donc, on finit par avoir un réel problème d'incompréhension de pourquoi est-ce qu'on doit envoyer toujours plus de soldats si on est vraiment en train de gagner la guerre comme c'est prétendu en permanence.
Absolument. C'est-à-dire que l'argument qui consiste à dire on gagne la guerre, mais encore un tout petit peu et ce sera bon, même avec tout le talent politique de Johnson, à partir d'un moment, ça sera dur de le légitimer, cet argument. Et puis, il deviendra intenable après l'offensive du Tet en 68, lorsque, de manière assez massive, toutes ces scènes prises par les caméras de télévision montrent qu'il y a eu une offensive d'une très grande ampleur qui a mis en difficulté les États-Unis. Et même si ça a été une défaite sur le terrain des communistes, ça a montré à la population américaine que l'ennemi n'était pas du tout sur le point d'être combattu. Et à partir de ce moment-là, ça va être très dur pour les États-Unis de continuer à avoir un investissement pour la guerre et de ne pas se restreindre encore davantage dans l'usage des moyens de coercition.
Oui, on arrive vers, disons, la fin du processus. Alors, on reviendra sur le processus en soi, mais sur le fait que, du coup, on est obligé de... Enfin, ça donne tout le mouvement de contestation de la guerre qu'on connaît, des années 60, quoi, vraiment. Mais du coup, ce qui pousse Johnson à réduire encore l'investissement et du coup à réduire les chances de victoire, quoi.
Absolument. Donc c'est le cercle vicieux dont on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc on s'est restreint dans les capacités, on s'est mis en difficulté. Et la mise à jour de ces difficultés et aussi de la tromperie initiale fait qu'on va devoir se restreindre encore davantage.
Alors, on va mettre de côté maintenant les États-Unis, on y reviendra tout à l'heure. Mais le deuxième exemple qui est tout aussi important, c'est donc Israël au Liban en 1982. Alors, il faut peut-être rappeler un peu plus le contexte ici, qui est peut-être un peu moins connu, qu'on a peut-être un peu moins en tête. Le contexte, c'est évidemment les difficultés d'Israël par rapport à ses voisins, donc la guerre des six jours en 1967, puis la guerre du Kippour en 1973, où on a une supériorité militaire israélienne qui est quand même nette, dans les deux cas. Et le deuxième contexte, c'est de la volonté de lever la menace que ferait peser l'OLP depuis le Liban.
C'est ça. Alors, la volonté, c'est notamment vis-à-vis de l'OLP...
Donc l'Opération de Libération de la Palestine, pardon.
Oui, voilà. L'organisation. Et donc, le but du jeu, c'est de pouvoir les refouler du territoire libanais qui n'est pas véritablement souverain, de manière à ce que Israël ne soit plus menacé, et surtout même de faire du Liban un État allié, un État souverain et un État allié, puisque les forces syriennes sont logées à l'intérieur du Liban. Donc, l'opération va consister à déloger à la fois les forces syriennes et les forces palestiniennes du territoire libanais, et du faire de Liban un État souverain, puisque Israël est allié aux phalanges chrétiennes, et on compte bien mettre à la tête du Liban...
Oui, c'est, quand on parle du Liban, c'est toujours d'une complexité impossible, mais donc il faut garder en tête qu'il y a l'OLP au Liban, qui a une inimitié vis-à-vis des milices chrétiennes, donc les phalangistes, etc., joue un rôle compliqué vis-à-vis de la Syrie aussi, donc on a vraiment tout un... Il y a les chiites aussi qui sont au Liban, enfin il y a donc tout un tas de factions extrêmement compliquées qui se détestent toutes, ou à peu près toutes.
Il y a quelques mariages de raison.
Voilà, et en tout cas, il y a le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'OLP dans l'affaire, notamment les phalanges chrétiennes qui ont du coup une sorte d'intérêt aligné avec Israël.
Oui, bien sûr, c'est absolument ça. Et ils se battent de manière tout à fait féroce depuis le début de la guerre civile au Liban. Les Palestiniens vont néanmoins trouver un allié de raison, qui est la Syrie, même si leur objectif à plus long terme est contradictoire, puisque la Syrie est intéressée par l'idée d'une grande Syrie, et donc il mettrait la main sur les territoires libanais sur lesquels les Palestiniens sont occupés, sont installés, pardon. Mais néanmoins, ils ont un objectif commun, c'est à court terme et à moyen terme, c'est d'empêcher Israël d'investir le Liban et surtout de mettre à la tête du Liban une faction qui leur est opposée.
Ouais, et donc là, dans cette perspective d'intervention, il y a, donc il y a une volonté d'intervenir au Liban pour soutenir les phalanges, pour chasser l'OLP, mais il faut venir peut-être sur, disons, les personnages de cette affaire, et un personnage qui a été extrêmement important dans la politique israélienne, qui est mort il y a quelques années, qui est Ariel Sharon. Alors on a peut-être un peu oublié, parce qu'à la fin de sa vie, il s'est un peu centrisé, mais à cette époque-là, Ariel Sharon, c'est le faucon des faucons, c'est celui qui veut absolument aller pourchasser l'OLP partout où elle se trouve.
Oui, il n'était pas centriste à l'époque. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle du contexte de cette guerre, peut-être que le contexte interne est plus important que le contexte international, dans le sens où Israël physiquement n'était plus menacé depuis au moins 11 mois par les tirs des Palestiniens. Et c'est finalement le changement en politique interne qui va être décisif, puisque la gauche n'est plus au pouvoir pour la première fois en Israël. Begin, le Premier ministre, arrive, et lorsqu'il est réélu sur des positions notamment plus ferme en politique étrangère, il fait d'Ariel Sharon le personnage central. Sharon, donc, qui est connu en Israël parce que c'était un héros de guerre durant les guerres précédentes, et qui est connu pour être extrêmement intransigeant. Il ne respecte la discipline que lorsqu'il la domine. Il est extrêmement belliqueux. Mais c'est un personnage, on va dire... un faucon avec un profil qui est assez déterminé, qui n'a rien à voir avec celui de Begin. C'est le faucon parce qu'il considère que c'est dans l'intérêt national israélien et qu'il veut être complètement pragmatique. Donc ça le dérange pas. En tout cas, il est tout à fait prêt à faire perdre la vie à beaucoup de monde dans les rangs de l'ennemi comme dans les siens, à partir du moment, et à se mettre en danger sans doute lui-même, à partir du moment où il considère que c'est l'intérêt national et conçu de manière assez réaliste et pragmatique. Rien à voir avec le Premier ministre, qui est très faucon lui aussi, donc ils vont avoir un mariage de raison ici, mais pour des raisons bien plus idéologiques, de grand Israël plutôt biblique.
Oui, et donc Ariel Sharon, il faut le dire, en fait, il devient ministre de la Défense à ce moment-là, donc le chef de toute l'armée, quoi. Donc il devient en 81, je crois, ministre de la Défense. Et du coup, l'objectif, aussi bien de Begin que de Sharon, c'est de faire une intervention au Liban. Mais alors il faut peut-être préciser qu'en Israël, le problème, c'est qu'il faut vraiment une autorisation du cabinet pour, du ministère, du Conseil des ministres, quoi. Pour pouvoir engager les forces armées.
Ah oui, ouais, complètement. En tout cas, dans la pratique, parce qu'il n'y a pas de constitution véritablement en Israël, il y a des lois fondamentales, et ce qui concerne la politique étrangère est très très peu explicité. Mais dans la pratique, tout à fait, le cabinet est très important. Et le cabinet, donc les membres du cabinet qui sont les ministres, prennent en compte évidemment... l'opinion, et l'opinion est tout à fait hostile à cette idée-là, parce que d'une part, Israël ne se sent pas menacé par les Palestiniens, encore moins par les Syriens, et de toute manière, il considère que Tsahal n'est pas un outil offensif, n'a absolument pas vocation à pénétrer dans une capitale arabe ou à déloger des ennemis qui, a priori, ne vous ont pas attaqué en premier. Donc la tâche s'annonce quand même compliquée.
Ouais, donc il va falloir trouver une solution pour avoir cette autorisation et ensuite, disons, l'élargir. Alors comment est-ce qu'ils vont faire ?
Dans un premier temps, ils vont essayer simplement de vendre l'idée comme ça et ils vont échouer plusieurs fois. Ils vont échouer plusieurs fois, le cabinet...
Donc l'idée, c'est qu'il faut aller à Beyrouth et voilà. Déloger l'OLP.
Voilà, il faut aller... Et puis ça impliquera aussi de se battre contre les Syriens, puisque finalement, c'est plus contre les Syriens que cette guerre a marqué... D'un point de vue pratique, c'est plus une guerre contre les Syriens que contre les Palestiniens, même si on se souvient plus par rapport aux Palestiniens de ce qui s'est passé. Et donc les premières tentatives de guerre très ambitieuses sont clairement rejetées par les ministres. Par la suite, Sharon et Begin essaient de proposer des guerres qui sont beaucoup plus minimalistes dans les objectifs, mais même lorsque ces projets de guerre sont revus à la baisse, de manière assez invariable, les ministres disent non. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un incident, une tentative d'assassinat sur l'ambassadeur israélien à Londres, et que Begin et Sharon vont essayer, surtout Begin pour le coup, vont essayer d'exploiter en disant que ça avait été une attaque des Palestiniens. Ce qui est vrai, mais ce n'était pas l'OLP, c'est que Begin savait. Mais du coup, ça leur a donné un prétexte pour lancer des offensives contre les Palestiniens, contre l'OLP. Évidemment, il y a eu une réponse, une escalade. Et donc, on s'est trouvé dans une situation où, pour le coup, il y a eu des échanges de tirs avec les Palestiniens. Et la proposition, dans ce contexte-là, d'une opération militaire qui était tout à fait minimale, a été acceptée.
Donc oui, elle est minimale, il faut le préciser, elle est minimale surtout géographiquement, en fait. Il y a une autorisation, mais dans une bande de 40 km.
C'est ça, 40 km, parce qu'on
le long de la frontière, donc, Israël.
Voilà, la frontière nord-israélienne que les Hébreux partagent avec le Liban. 40 km, c'est une bande, fine bande de territoire. C'est pas un chiffre qui est complètement arbitraire, hein. En gros, c'est la portée des roquettes, pour dire, ok, comme ça, les territoires israéliens ne seront plus victimes des tirs des terroristes, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Et donc, ça justifie l'idée de pénétrer dans cette bande de 40 km, de déloger les Palestiniens. Et promesse est faite de manière explicite, répétitive, à la fois par Begin et par Sharon, de rentrer en Israël une fois que les Palestiniens seraient délogés de cette bande. Et qu'il n'y aurait pas, absolument pas, de visée sur Beyrouth, et absolument pas, Beyrouth qui est bien au-delà des 40 km, et absolument pas d'affrontement à venir avec les Syriens. Donc les choses sont claires. 40 km et on rentre.
Et ouais, mais pourtant ils vont quand même se retrouver à Beyrouth.
Bien sûr. Ils vont se retrouver à Beyrouth, ils vont se retrouver à faire la guerre contre les Syriens, parce que Begin et Sharon n'ont absolument aucun intérêt à simplement utiliser ces 40 km. En fait, sur le terrain, c'est Sharon qui va mener les opérations, et une fois qu'il a les forces militaires avec lui et qui sont engagées, il va essayer de mettre, il va réussir à mettre les membres du cabinet au pied du mur en leur disant j'ai encore besoin un petit peu de moyens pour aller un petit peu plus loin, juste maintenant parce qu'on est vraiment, dans un pétrin et un petit peu coincé pour ne pas mettre les soldats israéliens en difficulté. Les membres du cabinet acceptent, mais ils acceptent dans des conditions qui font que l'usage de la force ne va pas être le plus rationnel.
Oui, alors du coup, on va peut-être commencer à, voilà, directement à parler de ces difficultés. Donc, quels sont les problèmes que ça pose concrètement sur le terrain? Le fait que, disons, il y a une légitimité limitée, voire inexistante, à ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain?
On va s'en rendre compte très très tôt. Déjà, si vous voulez prendre à défaut un ennemi, vous essayez de le surprendre, ce qui n'a pas été le cas ici, puisque le fait de vouloir monter petit à petit fait que vous avez une approche de votre engagement qui est tout à fait stéréotypée et on vous voit venir. Par exemple, ils auraient pu faire ce qui avait été planifié en amont en cas de guerre, un débarquement bien plus haut pour prendre l'ennemi à revers. Ça n'a pas été fait parce que ça aurait montré à tout le monde qu'on était intéressé par des objectifs qui sont en réalité bien, bien plus ambitieux. Et plus précisément vis-à-vis des Syriens, parce que Israël va perdre cette guerre contre la Syrie, pas contre les Palestiniens. Vis-à-vis des Syriens, ça voulait dire les frapper tôt, ce qu'Israël n'a pas fait, mais surtout, une fois que les Syriens sont dominés sur le champ de bataille, ce qu'ils sont, parce qu'Israël a une force de frappe qui est bien supérieure, profiter des revers des Syriens pour prendre les positions qui sont stratégiquement les plus profitables. Or, Israël s'est empêché de prendre ces positions parce que ça voulait dire, après la bataille, avancer sur le territoire
libanais. Oui, c'est ça. En quelque sorte, l'armée israélienne ne peut jamais pousser son avantage quand elle en a un.
Absolument. C'est-à-dire qu'elle se comporte sur le territoire libanais contre les Syriens, comme si elle venait de perdre une bataille alors qu'elle venait de la gagner.
Oui. Alors, par ailleurs, il y a aussi un problème vraiment dans le maniement de l'armée vis-à-vis des soldats, puisque, cette espèce d'obscurité, elle se traduit aussi sur le champ de bataille, c'est-à-dire les soldats ne savent pas exactement ce qu'ils sont en train de faire.
Les soldats ne savent pas du tout quels sont les buts et les objectifs qui sont censés être atteints, puisque lorsqu'ils écoutent la radio, ils entendent absolument l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire.
C'est-à-dire qu'ils entendent à la radio Begin qui dit qu'on va pas à Beyrouth alors qu'ils sont en train d'aller à Beyrouth.
Alors qu'ils y sont parfois. Alors, et donc c'est très problématique et ça leur pose vraiment une question par rapport à la légitimité de leur action, chose qui est très importante en Israël, peut-être plus aussi qu'ailleurs, puisque c'est une armée de citoyens, et qu'on a plus de mal pour d'autres pays à faire une distinction entre armée et citoyen, parce que c'est pour l'immense majorité des réservistes, et ils ont un lien avec la société. J'allais dire un lien avec la société qui est forte, mais même ça, c'est presque faux, puisqu'ils sont dans un sens encore le prolongement de la société. Donc il va avoir une forte illégitimité. Maintenant, c'est pas pour autant que il y aura énormément de gens qui vont refuser de servir. Il y en aura, ça va être fort symboliquement. Les Israéliens vont quand même, du point de vue militaire, c'est une armée qui est disciplinée, faire ce qu'on leur demande de faire. Mais en termes de cohésion, en termes de légitimité des objectifs et en termes d'efficacité, ça va porter un gros préjudice à l'engagement.
Donc, contestation à l'intérieur de l'armée, contestation aussi dans la société civile qui monte très fortement et qui va culminer avec ce dont on se souvient peut-être souvent surtout pour cette guerre du Liban en 1982, qui est le massacre des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, donc à Beyrouth, qui rendent le maintien d'Israël complètement insoutenable avec un mouvement de fond dans la société israélienne. Je vous parlais de manifestations où il y a 10% de la population israélienne qui est dans la rue, ce qui est un chiffre absolument invraisemblable. Mais ce que vous montrez, c'est que si c'est fait, ce massacre, avec le déchaînement de violence incroyable que ça a été, et que ça a été traduit pour le monde entier, c'est sans doute parce que c'est fait par les phalangistes chrétiens, et ce que vous montrez, le lien de causalité que soit vous faites, ou en tout cas que vous évoquez, c'est que c'est peut-être aussi et précisément parce que l'armée israélienne n'est pas censée se trouver là, selon son mandat, et que du coup, elle ne peut pas faire elle-même ce qu'elle voudrait, c'est-à-dire éliminer ces camps de réfugiés, et du coup elle est obligée de sous-traiter la chose auprès de phalangistes qui sont, dans la situation de la guerre civile libanaise en 1982, dans une soif de sang et de violence invraisemblable.
Oui, vous avez très bien résumé l'enjeu, c'est-à-dire qu'Israël se trouve dans une situation où elle a un peu les mains liées, et avoir recours pour nettoyer les camps, alors nettoyer les camps des combattants palestiniens, hein, c'est comme ça que c'était conçu du côté de Jérusalem, mieux vaut faire appel à ses alliés phalangistes plutôt que de le faire soi-même. Et l'idée est de se dire que oui, si Israël s'en était chargé, ça se serait pas passé de la même manière, et que si Israël ne serait-ce que chargé...
Ne serait-ce que du fait que c'est une armée, quoi. Enfin, ça fait quand même une grosse différence entre une armée et une milice, enfin, concrètement, en termes de contours. Enfin, quand on lâche une milice dans un camp, enfin, y a peu de manières où ça se termine bien, quoi.
Et puis, cette milice en particulier, qui avait, on va dire, beaucoup de reproches à faire aux Palestiniens, qui considéraient être responsables de l'assassinat de leur leader. Et donc, moi, je pense, même si c'est pas forcément le cœur de mon enquête, que l'une des raisons principales qui a amené Israël à déléguer cette tâche-là, c'est parce qu'elle était un petit peu à bout du souffle en raison de la tromperie initiale qui faisait qu'elle n'était pas censée se trouver là. Et surtout, si les Israéliens sur le terrain ont mis du temps à réagir, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, la chaîne de commandement était devenue un petit peu... c'était devenu très inefficace, et ça a permis à ces massacres de se produire. Des massacres dont on sait aujourd'hui qu'ils avaient été envisagés par certains acteurs politiques en interne, en disant « attention, si vous déléguez, il risque de se produire cela ». Donc on sait aujourd'hui que ce n'était... Enfin, il me semble qu'on sait que ce n'était pas voulu par Israël, mais en même temps, on savait que c'était une conséquence envisageable. Mais je pense que l'élément du puzzle qui est manquant ici, c'est clairement le contournement de la démocratie en amont qui fait qu'Israël n'est pas censé se trouver là, et que même en réagissant, elle le fait de manière beaucoup moins efficace en raison de toutes les conséquences néfastes qu'a eu ce contournement de la démocratie de manière directe et indirecte.
Ouais, et du coup, la conséquence de tout ça, c'est que c'est des massacres qui ont un impact très fort dans l'opinion, et du coup, ça provoque une hostilité générale atteinte dans toute la région, même, paradoxalement, avec des chiites libanais qui étaient plutôt bien disposés vis-à-vis d'Israël, alors sans le dire explicitement, mais qui avaient des intérêts plutôt alignés avec les Israéliens au début. Et ça finit par provoquer la création du Hezbollah, dont on sait aujourd'hui que c'est quand même un petit problème pour Israël. Donc c'est vraiment une sorte de catastrophe indirecte à échelle régionale pour Israël, toute cette opération.
Oui, c'est vrai que le Hezbollah est un ennemi autrement plus coriace que ne l'était l'OLP, et qui a pérennisé son activité et augmenté en force et en légitimité. Alors qu'au début, vous avez raison de le souligner, les chiites n'étaient pas du tout défavorables, et même certains étaient carrément explicites dans leur soutien à Israël, et les troupes israéliennes avaient été très très bien accueillies lorsqu'elles avaient pénétré dans les territoires dans lesquels les chiites se trouvaient. Mais évidemment, le fiasco qui est devenu cette opération-là a fait changer la donne, et finalement, les conséquences indirectes de l'opération vont être encore plus désastreuses pour l'État d'Israël que la perte de la guerre, vu qu'on en arrive à la création du Hezbollah, en effet.
Donc maintenant, si on essaye de faire un pas de retrait et qu'on essaye de prendre donc ces deux cas de figure qu'on a vus en détail, qu'on essaye de les rassembler, ça donne, ce que vous identifiez, c'est une espèce de schéma commun, d'ailleurs qui est vraiment un schéma dans votre livre, qu'on mettra peut-être sur le site ou sur les réseaux sociaux, qui est une sorte de flowchart, du processus de contournement démocratique et, de la manière dont le contournement provoque une séquence d'événements qui provoque la catastrophe militaire à terme.
C'est ça. Donc j'ai essayé d'isoler un petit peu cette chaîne de causalité qui commence avec le contournement de la démocratie et qui va jusqu'à la défaite. L'idée étant que contourner la démocratie implique, comme on l'a vu, donc du coup maintenant je peux aller un petit peu plus vite, de se restreindre dans l'engagement. On est plus discret, on est plus prudent, et on fait la guerre de manière moins efficace. Donc, contournement démocratique implique restriction dans l'engagement. Les restrictions dans l'engagement impliquent des difficultés militaires. Ces difficultés militaires, évidemment, impliquent de la contestation, vu qu'on se rend compte que des soldats meurent pour une guerre dont on sait à moyen terme qu'elle ne correspond pas à ce qui a été vendu. Donc la contestation commence à monter dans les nations en interne démocratiques concernées par l'engagement militaire. Et une fois que la contestation naît, ça oblige les États qui font la guerre à encore plus se restreindre dans leur engagement, cette fois pas pour anticiper le risque de contestation.
C'est l'époque appliquée au Vietnam, c'est le moment où par exemple Johnson est obligé de limiter l'investissement, et où du coup ça devient encore moins efficace. Quoi.
Absolument. Voilà. Donc là, il y a un cercle vicieux qui commence à s'enclencher. On fait la guerre avec moins de moyens, on a encore plus de difficultés qui augmentent la contestation, on refait encore baisser les moyens, et chaque facteur, finalement, renforce l'autre. Un cercle vicieux qui, finalement, ne va s'interrompre que lorsque les dirigeants démocratiques vont se rendre compte que la guerre est ingagnable et ils se retirent. Et c'est la défaite.
Et c'est comme ça que une démocratie perd une guerre.
Je crois que c'est la chaîne de causalité qu'il fallait souligner par rapport au débat qu'on avait mentionné au début de cette émission.
Ouais. Alors il faut préciser que vous faites aussi dans le livre, et c'est très intéressant, vous faites de la simulation contrefactuelle. C'est-à-dire que vous envisagez les scénarios s'il n'y avait pas eu contournement ou s'il y avait eu un contournement moindre. Alors. D'une part, c'est très plaisant à lire, parce que c'est toujours un peu de la politique fiction, c'est toujours très amusant. Mais aussi, c'est une démarche qui a une vraie valeur heuristique, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup réinvesti par des travaux d'histoire ces dernières années, parce que ça, c'est stimulant et ça permet d'envisager, disons, des causalités alternatives. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de simulations contrefactuelles appliquées à ces deux exemples comment ça aurait pu se passer, quoi ?
Alors, comment ça aurait pu se passer ? Alors, c'est précisément la question que je me pose, et je profite pour me dire que je me demande pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette méthode plus souvent, parce que si on dit que X a causé Y, ça veut dire que sans X, il n'y a pas Y. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que X a causé Y ? On se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qui se serait passé si X n'avait pas été là ? Donc si on accepte de parler de causalité, on devrait presque pas faire une analyse contrefactuelle à chaque fois. Donc c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre-là. Le cas qui est le plus simple, c'est pour Israël, parce que la guerre a été moins longue. Donc c'est moins difficile de manipuler des causes et d'imaginer des scénarios alternatifs. L'idée de se demander qu'est-ce qui se serait passé si il n'y avait pas eu contournement de la démocratie. Imaginez que clairement Israël décide d'aller en guerre en publiquement reconnaissant les objectifs de guerre qui étaient ceux qui ont été appliqués sur le terrain, implique de ne pas devoir reculer ou de ne pas s'empêcher d'avancer une fois qu'ils ont dominé les Syriens sur le champ de bataille, implique de pouvoir profiter de leur domination des airs, notamment lors de la bataille aérienne Courtière 19 dont je parle à l'intérieur du livre. Je pense qu'à chaque fois que les Israéliens se sont auto-limités dans l'usage de la force, c'était dû à la tromperie initiale, et que sur le terrain, les forces en présence étaient tellement en faveur d'Israël qu'on peut difficilement se dire qu'un Israël non limité aurait connu les difficultés militaires qu'elle a connu sur le terrain.
D'une certaine manière, ça aurait été plus propre, quoi. Ils seraient allés plus directement, moins longtemps, et les objectifs auraient été remplis de manière peut-être plus simple, quoi.
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est le premier scénario. Cette thèse-là, on peut la mettre en cause dans le sens où s'il y a eu contournement de la démocratie, c'est pas pour rien. Et un autre scénario, c'est de se dire que finalement, si Israël refuse de contourner la démocratie, sans doute que la guerre n'a pas lieu, parce qu'Israël ne peut pas commencer, parce qu'Israël ne peut pas vendre cette guerre-là au public qui, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rechigne à l'idée d'avoir des forces nationales de défense qui sont utilisées dans cet objectif-là, de manière offensive, et surtout de pénétrer dans une capitale étrangère. Donc dans les deux cas, il n'y a pas de défaite, le premier cas parce qu'il y a victoire, et le deuxième cas parce qu'il n'y a pas de guerre.
Ouais, alors, mais du coup, on pourrait aussi faire un exercice de pensée, c'est-à-dire, est-ce que vous voyez dans l'actualité plus proche de nous des choses qui pourraient, disons, s'appliquer à vos thèses ? J'y pense parce que, je crois que c'est la semaine dernière, est sorti Vice, donc un film, un biopic sur Dick Cheney, qui était le vice-président de George W. Bush, et où il y a des choses qui font immanquablement penser à votre thèse, dans la genèse et dans la menée de la guerre en Irak en 2003. Est-ce que c'est par exemple un terrain qui vous paraît applicable pour vos thèses ?
Ça me paraît d'autant plus applicable que, pour tout vous dire, mais ça restera entre nous, initialement c'était le cas d'étude que je voulais étudier. Je voulais avoir deux cas d'étude, même c'était la Seconde Guerre mondiale et la guerre en Irak. Et en général, c'est cette guerre-là qu'on me demande de prendre en compte, puisque les gens considèrent que en effet ça marcherait très bien, donc que j'aurais très bien pu le prendre. En fait, ça serait trop facile pour moi de dire que ça marcherait aussi, mais de ne pas avoir tous les éléments tangibles qui ne me parviendraient qu'à la suite d'une enquête. J'ai dans l'idée que ça pourrait bien marcher concernant l'Irak, par exemple. Néanmoins, il y a peut-être une mise en garde à faire sur ce point de vue, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, finalement, les États-Unis en Irak, c'est deux guerres différentes. La guerre interétatique contre l'État irakien, que les États-Unis remportent au bout de peu de temps. Il n'y a pas de défaite ici. Et ensuite, il y a la guerre dans laquelle ils sont embourbés et qui est un conflit civil avec intervention extérieure. C'est celle-là qu'ils perdent. Là où moi je me pose la question, c'est est-ce qu'il y a une différence dans la manière de parler des objectifs de guerre dans la première, dans le premier épisode et dans le deuxième épisode. Clairement, les États-Unis depuis le début disaient qu'ils voulaient défaire l'armée de Saddam Hussein. Donc il n'y a pas eu de restriction dans l'engagement du fait qu'ils ont eu les objectifs.
Mais du coup, cette guerre-là, ils ont gagné.
Ils l'ont gagné. Donc ça conforte l'idée a priori que lorsqu'on dit les objectifs de manière claire, on est moins restreint dans l'engagement et qu'on peut se donner les moyens d'atteindre ces objectifs de guerre. Alors bien sûr, il est question de beaucoup de tromperies qui entourent le début de cette guerre, mais ce sont des tromperies qui ne touchent pas à l'objectif de guerre. Ce sont des objectifs sur la menace.
Ce qu'on voit dans Vice, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'hypothèse que, notamment du fait du passé de Dick Cheney comme président d'Halliburton, donc une compagnie pétrolière, il y avait l'objectif direct d'occuper et d'approprier les champs pétrolifères irakiens. Ce qui implique donc une présence sur le terrain sur le long terme, ce qui implique donc, en fait, tout ce qui va amener les problèmes qu'on voit depuis 10 ans, quoi, maintenant.
Voilà, donc là, vous avez donc les buts indirects sur le long terme et qui vont concerner la deuxième phase. Or, vous avez raison, cette deuxième phase-là, elle n'a pas été publiquement annoncée. Elle n'est même pas censée avoir lieu, vu que dans l'idée que se faisaient les néo-conservateurs, qui avaient une influence sur la manière dont la politique étrangère était élaborée, le fait même de déloger le tyran serait suffisant pour créer un État démocratique et dans la foulée de démocratiser la région. Donc on n'avait pas annoncé une présence et un engagement militaire substantiel dans la région. Et je pense que l'hypothèse que je suivrai, c'est que c'est cette absence d'annonce d'objectifs de guerre qui a poussé les États-Unis à faire des choix qui ne sont pas les choix qui sont les plus efficaces sur le terrain. Mais, encore une fois, ça nécessiterait d'avoir une enquête. Ce serait trop facile pour moi de dire, regardez, ça coïncide, donc c'est mon explication qui est la bonne. Ça coïncide, mais encore faut-il vérifier que c'est pour les raisons que je propose. Alors, est-ce que c'est moi qui ferai cette enquête-là, ou quelqu'un d'autre, ou peut-être vous? Non. Peut-être on la ferait ensemble, je ne sais pas.
Non, je fais des podcasts. Non, mais par ailleurs, c'est aussi une question qui se pose notamment sur la Syrie. Notamment, c'est intéressant, parce que il y a eu un article dans le dernier numéro de la revue de Défense Nationale par le colonel Légrier sur la bataille d'Adjin en Syrie. On en a beaucoup parlé récemment pour d'autres raisons, mais qui est intéressant par rapport aux propos du livre. Parce que je ne sais pas si vous avez lu l'article ou pas. Alors, il ne vous cite pas, mais l'idée est un peu la même. L'idée, c'est que c'est une victoire qui a été beaucoup trop compliquée, beaucoup trop coûteuse, parce qu'on se refuse politiquement aux pertes qui découlerait d'opérations au sol qui auraient permis de nettoyer plus rapidement la ville. Donc, simplement, est-ce que c'est une réflexion qui vous parle, qui vous paraît faire écho à la vôtre ?
Oui, bien sûr. Alors, je ne lis pas les articles qui ne me citent pas. C'est un principe. Non, évidemment que non. Alors, bien sûr, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de perspective. Maintenant, les questions que je me pose sont des questions qui sont en amont de celle-ci. Moi, les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que, dans certaines conditions, il y a un tel impératif, soit de discrétion, soit de prudence. Là, l'auteur en question met le doigt sur l'impératif de prudence. C'est vrai qu'il existe cet impératif de prudence. Maintenant, cet impératif de prudence, il existe dans beaucoup de guerres. Mais la question que je me pose, c'est à quel point est-ce qu'on veut être prudent ? Est-ce que c'est une prudence qui implique qu'on fasse des choix qui sont irrationnels du point de vue stratégique ? Et si c'est le cas, quelle est la raison de cette prudence-là ? Parce qu'on sait de manière empirique maintenant, qu'en démocratie, sous certaines conditions, la mort des soldats peut tout à fait être encaissée par la société. Il faut simplement que les objectifs soient considérés comme étant des objectifs légitimes et qu'on ait la victoire en vue. Mais pour que tel soit le cas, à mon avis, il est très important que l'annonce faite en amont par les chefs de l'exécutif permettent d'envisager cela, et surtout que lorsque la guerre commence à avoir lieu, qu'on voit une coïncidence entre ce qui a été dit et ce qui est fait sur le terrain. Donc moi, je dirais que ça m'intéresse, mais qu'il faudrait que je revoie en amont quelle est l'origine de cette prudence-là, et aussi en aval,
est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on n'envoie pas des troupes ? Est-ce qu'il y a vraiment une raison politique pour laquelle on n'envoie pas des troupes au sol en Syrie ? Est-ce que c'est que la société n'y est pas prête, ou que politiquement, c'est pas viable, quoi ?
Oui, est-ce qu'on a conscience que ce serait plus efficace, et est-ce qu'on refuse de le faire pour ces raisons-là ? C'est le genre de question que j'irai me poser. Si vous essayez d'avoir une réponse claire de ma part, vous ne l'aurez pas, parce que je ne l'ai pas sur cette...
C'est rare d'avoir des réponses claires aux problèmes compliqués. Alors, simplement pour finir, on peut dire que c'est intéressant parce que vous finissez sur une double note. Il y en a une qui est plutôt positive, qui est de constater que même dans les moyens de contournement, la démocratie n'est pas entamée, et c'est presque pour ça que le contournement ne marche pas, puisque à un moment, la démocratie reprend le dessus, la contestation est trop forte, et que du coup, ça fait échouer les opérations militaires indirectement. Donc ça, c'est un côté plutôt positif, si on considère que la démocratie est une bonne chose, ce qui est plutôt le cas. Mais il y en a une deuxième qui est un peu plus troublante, en remarquant que dans les deux cas que vous étudiez, il était possible de ne pas être trompé, soit pour le public, soit pour les responsables politiques qui partageaient la décision, ce qui du coup pose assez profondément la question du fonctionnement politique. Alors vous écrivez notamment « S'afficher en victime de pratiques trompeuses est finalement la position la plus confortable. Politiquement couvert par les mensonges du pouvoir, ces acteurs peuvent se désolidariser d'une guerre qui devient impopulaire sans avoir eu à payer le prix de l'avoir contestée lorsqu'elle ne l'était pas. » Donc dans une certaine mesure, on peut se demander si ça renvoie pas au statut toujours ambigu de la guerre en démocratie, c'est-à-dire du fait que on doit toujours être à fond quand il y a une guerre. C'est-à-dire il est toujours difficile de discuter posément et intelligemment les objectifs et les réalisations d'une guerre. Donc on revient un peu au point de départ. Mais la question qu'on pourrait poser du coup, c'est quels sont les exemples de guerres pour lesquelles on aurait posé un débat ouvert, démocratiquement efficace, intelligent, démocratique, quoi?
La Seconde Guerre mondiale, clairement, vous avez, par exemple, pour les États-Unis, le président Roosevelt, qui, au début, essaye un petit peu d'avoir quelques... Il a des initiatives qui frôlent le contournement, mais il n'arrive pas à les mettre en place. Et puis finalement, après Pearl Harbor, il propose un discours dans lequel il arrive à vendre le projet de guerre au public et ne cache pas les objectifs de guerre réels. Churchill non plus ne se cachait pas, au contraire, des objectifs et des sacrifices que ça impliquait. Et finalement, ça n'a pas empêché les démocraties en question d'utiliser tous les moyens qui étaient à leur disposition pour défaire l'ennemi. Alors on peut le comprendre de manière assez mécanique pour la Grande-Bretagne, parce que vous luttez pour votre survie. Pour les États-Unis, c'est beaucoup moins clair, puisqu'ils sont protégés par deux immenses océans. Donc je crois que là, on voit toute la différence entre une guerre qui est menée démocratiquement et lorsqu'on la lance de manière démocratique, à l'issue de ce processus-là, on a vraiment les cartes en main et tous les moyens pour la mener en œuvre de manière efficace. Et ces autres situations-là. Maintenant, en vous écoutant, je me dis, ça montre que la guerre, finalement, est une belle façon, d'un point de vue intellectuel, de se poser la question de la démocratie, puisque ce fait social total, entre guillemets, où on a besoin d'être à fond, comme vous le soulignez, implique qu'on voit éclore des processus qui sont peut-être plus difficiles à saisir pour les questions de politique interne. Et donc ça nous en dit pas simplement sur la guerre, d'écrire sur la guerre, ça nous en dit sur l'état de notre démocratie.
Bon bah c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup Élie Baranetz. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, et que vous pouvez nous joindre sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse lecollimateurpodcast@gmail.com. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter et nous laisser un commentaire sur iTunes, ça aide à le faire connaître. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.